Pour votre info est présenté par Desjardins.
Cette semaine, c'est le temps de se préparer à la récession.
Il y a moins d'opportunités, il y a moins de gens qui peuvent partir en exploration, en balade, puis trouver un produit par hasard. Mais c'est un environnement qui va récompenser l'excellence, le focus, la valeur.
Tous les signaux économiques pointent vers un début de récession prochainement. On se donne des trucs pour naviguer à travers cette période de grande incertitude avec nos invités Céline Jupeau et Louis-Félix Binette. Je m'appelle Laurent Therrien, bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. On l'oublie, mais la dernière vraie récession remonte à il y a 15 ans, en 2008. Je dis vrai parce que, bon, l'économie a solidement planté en mars 2020, mais la période de crise économique en tant que telle, elle aura duré que quelques semaines finalement, et elle a été suivie, vous vous en doutez, d'un extraordinaire rebond depuis. 15 ans donc, depuis la dernière crise économique. Parce que ça veut dire que toutes les entreprises qui ont été créées depuis ont vécu une période de relative croissance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de hauts et de bas depuis 2008, mais mettons qu'une vraie débarque, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Là, l'année achève et les économistes sont moins confiants, disons. L'inflation est au plafond, les taux d'intérêt augmente sans cesse et tranquillement, l'économie du Québec ralentit. On prédit que la récession va commencer prochainement. Alors, cette semaine, on s'est dit, on va se préparer à ce nouvel état d'esprit-là. On va le faire avec deux entrepreneurs. Céline Jupeau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Louis-Félix Binette, bonjour.
Bonjour.
Céline, tu es la cofondatrice de Cotmo. Cotmo, vous développez, vous produisez, vous commercialisez des produits promotionnels responsables. Si tu avais en 30 secondes à nous résumer ce que vous faites chez Cotmo, qu'est-ce que vous faites?
On change radicalement l'industrie des objets promotionnels.
Ouais, donc vous fabriquez notamment des stylos, des bouteilles, des vêtements, des sacs, des affiches, des blocs-notes, etc. au Québec. Toujours dans le souci de l'environnement, toujours dans le souci de la société.
Exactement. On a trois aspects. En fait, on a un aspect production. Donc là, on fabrique les objets localement. On a un aspect distributeur où là, on va plus sélectionner des produits qui ne se font pas en Amérique du Nord, mais qui sont personnalisés ici avec nos critères environnementaux et sociaux. Puis on a un côté R&D où là, on investit pour justement s'attarder à un produit qu'on vient tout juste d'ailleurs de commercialiser le mois dernier, le premier stylo fabriqué au Québec. Donc, trois ans de recherche pour ça.
Félicitations, on en reparlera un peu plus tard. Je pense que ça fait partie des solutions qu'on va regarder ensemble. Louis-Félix, tu es le cofondateur et le DG du Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, Maine. Vous êtes en quelque sorte, le regroupement des incubateurs du Québec, on pourrait-tu dire ça?
On essaie de faire travailler en réseau tous ceux que, quand ils se lèvent le matin, ils se disent « je me lève aujourd'hui pour aider une start-up ».
Bon, puis toi-même, tu aides plusieurs start-up, tu as parti plusieurs entreprises, fait que tu baignes dans l'écosystème de la jeune pousse depuis quoi, 20 ans?
Peut-être pas 20 ans, mais on va dire activement au Québec depuis 10 ans.
Bon, fait qu'on a le profil parfait, je pense, la complémentarité parfaite avec vous deux. Céline, tu as parti ton entreprise il y a une dizaine d'années, presque 10 ans.
8 ans.
8 ans. On va commencer avec toi parce que, bon, vous étiez dans les objets promotionnels en 2020. Vous avez pris une solide débarque et vous vous êtes replacé. Je veux pas qu'on refasse l'histoire de la pandémie. Je pense qu'on est tout à bout de ça. Cela dit, tu as eu une première expérience d'une situation un petit peu plus difficile. Là, est-ce que tu sens que tu retournes vers ça? C'est-à-dire, est-ce que tu sens que le vent est en train de tourner, que les plaques tectoniques économiques sont en train de bouger? Et si oui, comment ça vous affecte?
La chose la plus difficile pour nous qui est en train d'arriver, c'est la hausse des taux d'intérêt. Mmh. C'est sûr que, moi, je me souviens quand j'ai commencé mon premier prêt, on m'a dit, mais tu sais, pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Là. Donc, c'est sûr que je me suis endettée pour bâtir l'entreprise. Puis là, de voir une hausse drastique comme ça où finalement on n'a pas d'aide. On est quand même laissé à nous-mêmes à nous dire en fait, tes taux d'intérêt de 10-12 %, débrouille-toi avec. C'est différent que quand il y a eu la pandémie, puis c'était comme bon, le gouvernement est derrière, puis ils vont venir nous aider à maintenir les salaires, à maintenir les emplois. Là, on est un peu comme OK, là, j'ai 10 000 $ de plus qui sort en taux d'intérêt. C'est où que je coupe, comment je m'ajuste?
Et il y a moins d'intérêt d'intérêt de la part des investisseurs pour ajouter de l'argent neuf aussi dans l'entreprise, n'est-ce pas?
C'est ça. Ben nous, on n'a pas d'investisseurs comme du
externe.
Mmh. C'est vraiment juste Cindy et moi qui sommes associés et actionnaires de l'entreprise. Mais tout l'investissement qu'on a dû faire, tous les prêts qu'on devait aller chercher, on les a pris avant. Donc, je me dis, bon, là, c'est sûr qu'on est moins dans une demande de financement, mais on est plus dans une demande, OK, là, il nous faut des ventes. Puis, est-ce que nos clients vont avoir la capacité de continuer à commander autant que ce qu'ils commandaient?
Mmh. Louis-Félix, est-ce que ce que tu entends là, c'est l'inquiétude des entrepreneurs que tu coaches, que tu vois dans l'industrie? Est-ce que tu sens une montée de l'anxiété collective face à l'état de l'économie en ce moment?
Bien, c'est sûr qu'il faut qu'on se pose des vraies questions. C'est on parle d'inflation, mais quand c'est une inflation généralisée qu'on vit, c'est-à-dire tout coûte plus cher. Là. Il y a l'inflation sur les prix, le matériel, il y a l'inflation sur la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre est rare, ça veut dire que ça coûte plus cher embaucher des gens. Il y a l'inflation sur le coût de l'argent. Hein. Le taux d'intérêt, finalement, c'est le coût de l'argent. Fait que acheter de l'argent ou emprunter de l'argent, ça coûte plus cher maintenant. Donc, tout ça coûte plus cher. Puis, il y a beaucoup d'incertitudes sur ces mêmes lignes-là. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le matériel. Les chaînes d'approvisionnement sont un peu brisées. C'est dur de planifier. C'est dur de planifier la croissance de l'entreprise en termes d'emploi. Fait que c'est sûr que c'est des critères que les entrepreneurs doivent prendre dans leur calcul. Puis quand tu regardes ça, augmentation des coûts, augmentation de l'incertitude générale. Tu sais, là, on parle de la récession. Je dis, c'est le mot en R. Là. Comme plus on le prononce, puis plus on a peur de la récession, plus on est tous en train de lever un peu le pied de l'accélérateur, puis commencer à avoir peur. Mais ça peut s'emballer. C'est-à-dire que c'est pas une finalité. Là. On sait pas vraiment où ça va la récession, mais c'est sûr que dans tous ces calculs-là, je pense que les entrepreneurs doivent le prendre en considération. Puis si ça augmente pas leur niveau de stress, ils devraient se poser une question à savoir si leurs fils sont bien connectés.
C'est ça, s'ils sont prêts à faire face à ça. Une inquiétude que j'entends dans le marché actuellement, c'est si, je pense à toi Céline, parce que c'est votre cas, une plus petite entreprise a moins de marge de manœuvre. Si le contexte économique devient plus difficile, elle peut moins investir en développement. Et là, s'installe une espèce de cercle vicieux où moins elle investit en développement, moins elle prépare sa sortie de crise. Est-ce que c'est ce que vous vivez chez Cotemo?
Bien, finalement, ce que je me rends compte, c'est, sans le vouloir, on l'a un peu préparé. Dans le sens où ce stylo-là qu'on a commercialisé, ça fait 3 ans qu'on a investi dedans. Bien là, c'est un peu notre solution, justement, à notre sortie de crise. C'est le deuxième produit le plus acheté dans notre industrie. C'est le produit qu'on veut exporter. C'était tout ce qu'il fallait préparer avant même qu'on parle d'une récession. Finalement, est sur la table. La question, c'est de savoir est-ce qu'on va y arriver et tout. Puis on parlait de main-d'œuvre. Je pense que là-dessus, nous, c'est un des gros enjeux qu'on a en tant que petite entreprise parce que déjà, à la base, une petite entreprise a on a quand même des salaires un peu moins élevés que ce qu'il y a sur le marché. Okay? Mm-hmm. Puis, des jeunes qui sortent des grandes écoles puis qui nous demandent des salaires comme des grandes entreprises peuvent demander. Ben, c'est juste impossible. Donc, là où notre plus grand enjeu, nous, il est comment nos salaires vont s'adapter face à, justement, la pénurie de main-d'œuvre, face à l'inflation. Puis là-dessus, on est un peu pris de court, tu sais. Donc, comment on se prépare à tout ça? Et c'est là on doit innover sur, bon, bah, OK, oui, tu as ton salaire, mais c'est qu'est-ce qu'on considère d'autre dans un salaire sur les assurances, la qualité de vie, c'est tout ce compte, ces choses-là qui ne sont pas forcément, qui sont pas monétaires, mais qui ont une valeur.
C'est intéressant que vous ayez préparé la crise sans le savoir probablement, parce que vous étiez juste en mode recherche et développement sur votre prochain produit. Est-ce que ce sont toutes les entreprises qui sont prêtes comme ça?
Ben, je vais rebondir sur ce que Céline dit. Dans ma tête, une récession, un ralentissement économique ou un cocktail de paramètres ou de variables défavorables généralement à l'économie et à l'entrepreneuriat, ça affecte tout le monde, mais ça affecte pas tout le monde égal. C'est-à-dire que ça abaisse le terrain de jeu pour tout le monde, mais ça récompense l'excellence.
Hmm.
Ça récompense les entrepreneurs qui ont du focus. Autant, il y a 15 ans, pendant 15 ans, tu disais en introduction, c'est comme si on avait fait une balade sur l'autoroute, conditions parfaites, aucun trafic, rien. Est arrivée la pandémie, il y a eu un genre de plaque de glace, on a mis les freins. Puis là, pour un instant, la voiture est partie, elle a dérapé complètement. On est encore un peu dans ce moment-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation normale. L'inflation, ce n'est pas une inflation normale. La pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas une pénurie de main-d'œuvre normale. Si on vit une récession, ce ne sera pas une récession normale. C'est une récession qui est due à un coup de frein brusque sur une économie qui allait bien. Fait que, moi, je pense que ça ramène. Il y a moins d'opportunités, il y a moins de gens qui peuvent partir en exploration, en balade, puis trouver un produit ou trouver un service ou une idée d'entreprise qui va réussir par hasard. Il y a moins de place au hasard dans un environnement qui se rétrécit, mais c'est un environnement qui va récompenser l'excellence, le focus, la valeur. Je pense que l'exemple que Céline vient de donner avec son stylo fait de matière recyclable au Québec, c'est un exemple d'investissement qui a été fait avant la pandémie, qui était focusé sur la valeur. Comment est-ce qu'on apporte de la valeur? Ceux qui vont réussir une récession, c'est pas ceux qui vont vendre des choses qui coûtent moins cher, puis couper les prix, puis couper la qualité des coins ronds. Ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont vraiment faire un effort de proposer des choses qui viennent répondre aux enjeux du moment. La valeur, les valeurs de l'entreprise aussi, ça va devenir un facteur aussi d'attraction des talents dans un contexte où il n'y a pas juste des questions d'argent là, qui vont être sur la table.
Oui, puis si je peux rebondir là-dessus, c'est que le plus grand focus d'un entrepreneur, ça doit toujours être sa mission d'entreprise. Ouais. Puis je pense que beaucoup de gens nous ont dit pendant la pandémie, on a continué d'investir dans le stylo parce que c'est le produit qui découle directement de la mission de l'entreprise et de la vision qu'on s'est donnée. Et jamais on s'est dit, ah, on arrête d'innover, on arrête d'investir dans notre innovation parce qu'il y a une pandémie, parce qu'on ne sait pas. Non, parce qu'en fait, l'entreprise n'est pas montée sur les 10 prochaines années, elle doit être montée sur les 40 prochaines années. Donc, c'est quoi notre responsabilité d'entrepreneur de se dire, mais c'est dur, je continue. Puis là où je trouve que la différence entre la pandémie et une récession, c'est que la pandémie, elle nous a isolés en tant qu'entrepreneurs. Une récession ne va pas nous isoler.
Elle ne nous empêche pas de nous rencontrer.
Exactement. Et c'est là-dessus où j'ai trouvé, moi, ce qui a été le plus dur en tant qu'entrepreneur, parce qu'on se voit comme 2-3 fois par semaine, là, tout l'écosystème, on se croise, on se parle de nos problèmes. Ah oui, moi, j'ai vécu ça. Ah bah attends, j'ai une idée pour toi. T'sais, les problèmes, on les règle vite. Pendant la pandémie, là, les problèmes, ça prenait du temps à les régler. Beaucoup, beaucoup trop de temps. Et c'est là où je me dis, moi, il est là un peu mon optimiste à me dire, ben, c'est pas grave parce que l'écosystème va être là, on va continuer d'échanger, on va continuer de se rencontrer. Et si on se bute à quelque chose, ben, on ne sera pas tout seul.
J'aime l'idée, pour revenir à un point de Louis-Félix, tu disais, c'est l'excellence qui va permettre à certaines entreprises de réussir. Rappelons-nous qu'il y a de grandes entreprises qui sont nées pendant la crise économique précédente d'il y a 15 ans. Je pense à Airbnb notamment, qui est née en 2008, là, dans plein cœur du trouble. Donc, il y a toujours de moyens. Pour revenir sur le fameux stylo, Céline, je l'ai vu sur votre site. Il est magnifique. Il est très beau. Est-ce que c'est lui? Ah ouais, c'est extraordinaire. Je le tiens dans mes mains en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Puis en quoi est-ce que c'est une innovation? Ou qu'est-ce qu'il y a de particulier, si tu veux?
Alors, c'est le premier stylo recyclé, recyclable, fabriqué au Québec de manière industrielle. Donc, c'est-à-dire que le plastique, il est le plastique post-consommation, c'est directement du plastique du bac bleu, du bac de recyclage des Québécoises et Québécois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a été pensé pour pouvoir être recyclé par la suite. C'est-à-dire qu'il est monomatière, il n'y a que 3 pièces, plus la cartouche. Et on a monté un programme de recyclage par la suite pour s'assurer qu'il soit désassemblé et recyclé et que le plastique soit remis dans l'industrie, finalement, la plasturgie. Et donc, c'est ça qui fait que c'est complètement différent par rapport à tous les autres stylos dans l'industrie promotionnelle là, qui sont faits outre-mer et qui se disent par exemple recyclés quand c'est la coque qui est recyclée, mais finalement toutes les pièces à l'intérieur empêchent le recyclage réel de ce stylo. C'est énormément de stylos qui transigent au Canada par année.
Oui, effectivement, j'en perds à peu près 4 par semaine, fait que c'est bon. Je suis clairement, je sais pas
qui
si je suis un bon client.
Tous les stylos de Laurent sont où les stylos de Laurent?
Je vais te poser la question qui tue, Céline. Oui. Dans un contexte où, pour les petites entreprises, c'est difficile, mais pour de grandes entreprises qui sont tes clients, finalement, celles et ceux qui ont des programmes de développement durable puis qui veulent revoir leur façon de faire, qui veulent revoir les produits qu'ils achètent, les produits qu'ils donnent, etc. Si le marché se resserre, s'il y a moins d'argent pour du discrétionnaire, est-ce que vous allez réussir à en vendre?
Le stylo, c'est un produit incontournable. Ça n'a jamais arrêté. Les entreprises n'arrêtent pas d'en acheter. On arrête de faire des petits cadeaux puis des petites choses, mais un stylo, c'est un produit essentiel de l'entreprise. Mmh. Juste au Canada, en 2020, c'est 145 millions de stylos qui ont été importés en pandémie.
Tu devrais être correct. C'est 1% de ça, vous survivez.
C'est ça.
OK, c'est bon.
Même pas.
On va parler de solutions parce que, bon, on va se donner des trucs, en fait. C'est ça mon objectif pour les quelques minutes qui nous restent. C'est, OK, bon, il y a quelqu'un à l'écoute là, qui se dit, bon, ben très bien, je comprends que le marché est plus difficile puis qu'il faut faire des choix plus stratégiques, il faut éviter de se lancer dans trop de directions. Je veux bien. Mais Louis-Félix, disons que tu es en train de coacher des entrepreneurs qui se sont lancés dans cette longue période de croissance économique. Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire de la même manière maintenant qu'on a fait jusqu'à maintenant?
Je pense que je l'ai dit un petit peu tantôt. Il ne faut pas se mettre en phase d'exploration où on se dit « Ah, on va essayer plein de choses, puis on va voir ce qui réussit.
Ouais. »
Je pense qu'il y a un temps où tu es capable de faire ça. Tu es quand même capable d'aller voir avec une bonne équipe, d'aller voir les investisseurs. Donne-moi de l'argent pour explorer sur cette grossière idée-là, puis je vais trouver quelque chose, puis je suis assez convaincant pour... Là, c'est fini, ça.
Mm-hmm.
Faut avoir une vision forte du problème qu'on cherche à régler. Puis, tu sais, on va se le dire, oui, peut-être les temps sont durs, mais les temps sont pleins de problèmes à régler. Les entrepreneurs, c'est des machines à résoudre des problèmes. Faut faire cette démonstration-là, qu'on est des machines à résoudre des problèmes, qu'on notre équipe est là pour résoudre des problèmes, comme ton équipe avec les stylos et le gaspillage qui vient avec ça. Faut continuer d'être ambitieux. C'est pas parce qu'il y a une récession qu'il faut commencer à penser petit. Il faut penser, ah, mais il y a une récession, je ne serai pas une grande entreprise. Ah, non, non, au contraire. C'est une récession, il y a des problèmes mondiaux, sociaux, environnementaux. Il y a plein d'entrepreneurs qui peuvent régler ce problème-là. Il faut voir grand. Il faut voir même, je dirais, à des marchés massifs. Ça peut vouloir dire planétaire, mais il peut y avoir un marché massif à l'intérieur d'une région.
Les 140 millions de stylos, justement.
Ouais, c'est ça, au Canada. Faut voir grand, mais il faut être extrêmement pointu sur dire, on va aller faire une différence. Là. Puis, comme dans le contexte, là, la proposition de Céline est comme un peu irrésistible. Si j'organise des événements, j'invite des gens, puis qu'il y a une solution qui me dit, hey, c'est un stylo équitable, etc., puis j'ai le choix à prix à peu près égal, même à 2X sur le prix d'un stylo, on s'entend que ce n'est pas un delta très grand dans l'absolu, j'ai comme pas le choix de considérer l'option que me propose Céline. Elle se propose comme une option incontournable. Si je pourrais acheter des stylos pour les gens qui viennent à mon congrès, à mon événement annuel, ben, je vais le faire avec Céline.
Mm-hmm.
Donc, il ne faut pas avoir peur de voir grand parce que c'est ça qui va récompenser. Tu as mentionné, il y a plusieurs entreprises qui sont nées, je ne vais pas toutes les nommer parce que des fois, c'est des startups puis ils ont pas des grosses startups qui n'ont pas toujours de bonne presse, mais il y a plein d'entreprises qui sont nées dans des contextes de difficultés. Puis le secret des entrepreneurs qui ont réussi, c'est qu'ils ont vu des opportunités dans la difficulté.
Dans la crise.
Hein, on le dit souvent, là, la contrainte est mère de créativité. C'est elle qui nous inspire à penser. Puis les entrepreneurs, c'est eux qui font ça.
Mm.
Puis on a besoin de le faire. Puis on a besoin de le faire individuellement comme entrepreneur. Puis j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Céline. Il faut le faire comme communauté d'entrepreneurs, puis comme écosystème d'acteurs qui veulent le succès des entrepreneurs. Il y a encore des investisseurs dans le marché. Ils ont encore de l'argent. Ils ont des fonds qu'ils ont levés dans les belles années, il y a 2-3 ans, ils ont levé des fonds. Ils ont des fonds à dépenser. Ils ne vont juste pas les dépenser sur n'importe quel projet. Ils vont les dépenser sur des vrais bons projets. Il faut qu'on les réussisse ensemble. Puis des fois, c'est 2-3 entrepreneurs qui vont se mettre ensemble. On va dire, ensemble, on peut amener un package de solutions à des grands clients corpo qui sont irrésistibles. Il faut créer des produits, des services irrésistibles dans le
J'aime
contexte.
Beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. D'autres solutions, Céline, auxquelles tu penses? Bon, ben, diversifier ses produits, clairement, vous avez compris ça. Chaîne d'approvisionnement, peut-être?
Oui, chaîne d'approvisionnement. Nous, on est beaucoup sur le local. Je pense qu'il faut... Il faut aussi diversifier ses fournisseurs, les diversifier, mais aussi comprendre les forces de chacun, prendre le temps d'aller les rencontrer. Ça, c'est la clé du fait local, là. C'est d'aller à la rencontre de ses fournisseurs. Puis je voudrais revenir aussi, par exemple, sur l'équipe. T'sais, on a tendance, dans un contexte de récession, à licencier. Je pense que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il ne faut pas licencier parce que ça ne va pas durer éternellement, cette récession-là. Donc, il faut solidifier son équipe et prendre le risque de se dire, bah oui, c'est peut-être un peu plus difficile de la garder comme telle, mais c'est aussi ça, se préparer à la sortie de crise. Donc ça, c'est une chose. Puis quand on parlait des investissements, puis des entrepreneurs qui doivent créer, c'est de créer quelque chose, de poursuivre avec des critères environnementaux et sociaux qui sont comme non négligeables dans toutes ces idées qu'on va mettre sur le marché.
T'sais, pourquoi? Pourquoi tu dis... Parce que, bon, on a encore tendance à opposer ou à se dire, bon, ben l'environnement et le social et faire de l'argent, ce sont deux choses différentes. Toi, tu dis, pour faire de l'argent, il faut que ces critères-là soient solides. Pourquoi?
Exact. Pour plein de raisons de comment elle est aujourd'hui, je pense que c'est une responsabilité des entrepreneurs. Je pense qu'il y a des grandes marques qui ont prouvé qu'on peut faire du profit en se souciant de la planète, des communautés. T'sais, on peut juste voir Patagonia. Oui. Puis on est donc nous on est certifié B Corp depuis 2016. Puis le B Corp te le dit, là, c'est profit, planète, humain au même niveau. Puis on est de plus en plus au Québec à se certifier, à aller chercher cette certification parce qu'elle a prouvé, puis la BDC pourrait en parler mieux que moi, mais eux, dans toutes les entreprises dans lesquelles ils investissent, ils ont pu démontrer que ces entreprises-là étaient plus rentables que d'autres entreprises. Puis il y a des articles qui sont sortis aussi en disant que d'ici 2030, les entreprises qui seront sur le marché et qui seront les grandes entreprises seront celles qui auront considéré l'environnement et la société au même titre que le profit. Et les deux vont, les trois, je dirais maintenant, vont ensemble parce que c'est aussi une demande des clients, c'est aussi une demande. C'est une demande des clients, c'est une demande de la main-d'œuvre, des employés, qui, les gens qui arrivent sur le marché du travail aussi. Et donc, si tu ne fais pas ça, je pense que ça va être difficile.
Mm-hmm. Je suis d'accord, Céline. Moi, je pense qu'il faut résister, là, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, résister à la tentation de couper dans l'environnement, le social, de couper dans le cœur de votre mission, du pourquoi vous êtes entreprise, juste pour aller chercher, dire on va être le plus, excusez-moi le terme lean, là, on va faire une queue d'amaigrissement, on va focusser sur l'économique, on va couper les coins ronds pour que ça coûte le moins cher, économiser les coûts, parce que quand on va revenir dans une économie normale, puis ça,
plus vite que trop tard.
Les prochains 1000 ou 5000 points de la bourse, on ne sait pas, mais les prochains 10 000 points, on sait dans quelle direction qu'ils vont. Fait qu'à un moment donné, on va sortir de là. Vous allez être un petit verre tout nu par rapport à des Céline qui ont fait un investissement intégral. Vous allez être un petit verre tout nu avec juste votre élément économique, puis il n'y a personne qui va vous trouver une forme de crédibilité parce que on le sait, là, on ne veut pas juste faire de l'argent aujourd'hui, on veut créer un monde meilleur, avec plus équilibré, avec des produits mieux sourcés. Il faut, si vous passez à côté de ça, juste pour, c'est ça la voie de passer, c'est la voie facile pour passer à travers la récession. C'est une grave erreur stratégique à long terme.
Puis je pense, on est en quête de sens. C'est, nous, notre stylo, là, j'aurais pu faire le moule en Chine, c'était 4 fois moins cher. Il est fabriqué au Québec, notre moule. Donc, à un moment, il faut que ce soit aligné. Puis je pense qu'on est dans une société en ce moment qui perd un peu son sens, qui ne sait plus trop. Il se passe tellement de choses. Au point de vue mondial, qu'est-ce qui nous ramène à l'essence même de ce pourquoi on est sur Terre aussi. Puis, tu sais, on est juste éphémère, là. On est juste un petit pion. Donc, c'est quoi notre responsabilité? Moi, je crois beaucoup à la responsabilité des entrepreneurs là-dessus, que si tu crées quelque chose, ben, fais-le bien.
Autant le faire comme il faut.
Exact. Parce que, tu sais, sinon, juste va travailler pour d'autres personnes.
Dans un contexte où ça va bien, comme dans un contexte où ça va mal, c'est ce que je retiens aussi, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue ces facteurs-là parce que l'économie peut boiter pendant quelques mois. Là.
Exact. T'en ressors plus fort. Puis, tu auras toute la crédibilité sur le marché.
Je retiens beaucoup de choses de notre échange. D'abord, l'importance d'être centré sur nos priorités, de faire des choix qui sont encore plus stratégiques, de ne pas se lancer dans toutes les directions. Je retiens aussi l'idée de collaborer, d'échanger, de continuer de se voir. Je pense que tu as tout à fait raison qu'il faut continuer à se parler, même si les temps sont plus difficiles. Évidemment, diversifier ses produits, diversifier ses chaînes d'approvisionnement. Il continue à y avoir des aides gouvernementales aussi, de l'aide qui est accessible de financement, d'incubateurs. Je pense qu'il faut continuer à aller cogner à ces portes-là.
Si vous avez besoin d'aide, demandez-en. N'ayez pas peur. C'est normal d'avoir besoin d'aide, même quand ça va bien. C'est encore plus normal d'avoir besoin d'aide aujourd'hui. Il n'y a personne qui va vous juger parce que vous demandez de l'aide. Les gens qui vont juger si vous avez oublié de demander de l'aide quand vous en aviez besoin.
Et qui est trop tard, oui, c'est ça. Louis-Félix, donc, on peut venir vers les accélérateurs, les incubateurs du Québec pour avoir accès à cette aide-là, j'imagine?
Oui, vous pouvez aller sur notre site, mainqc.com. On a une carte qui présente un peu les différentes ressources. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, écrivez-nous, on va vous aider à le trouver. Il y a en masse de monde pour aider tout le monde au Québec.
Puis Céline, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette période plus instable? Bon, bien, il y a le stylo, ça, c'est déjà, j'imagine, du passé pour toi. Toi, tu regardes vers l'avenir. Qu'est-ce que tu as dans tes cartons?
Ah, c'est du futur, là. Il faut que je le commercialise, il faut okay. que je l'exporte. Donc, que ce soit un succès, puis qu'on arrive à influencer notre industrie. Je pense que c'est ça, en bout de ligne.
Bonne chance.
Merci.
On va s'en reparler, j'espère, dans quelques mois. J'espère que ce sera une histoire de succès. Céline Jupeau, Louis-Félix Binette, merci d'avoir été avec nous.
Merci, Laura.
Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon.
Bon, on vient justement de brosser un portrait plutôt inquiétant ou en tout cas négatif de l'économie. Les marchés boursiers, eux, c'est étrange, semblent plus optimistes. Bonjour Hendrix.
Bonjour.
Je le disais, donc, les marchés boursiers ont un regain d'optimisme. Comment on peut expliquer ça?
Oui, en effet, là, les marchés, ça va quand même assez bien. Là, on voit un bon rebond, mais c'est qu'il y a différentes bonnes nouvelles qui sont arrivées en peu de temps. Entre autres, on a vu l'inflation tant aux États-Unis ou qu'au Canada, des signes que ça s'améliore, ou du moins que ça arrêtait de se détériorer. Et qu'on regarde l'analyse, ça, des analyses plus fines, on commence à avoir des signes que ça va dans le bon sens. On a aussi des données économiques, malgré tout, qui restent assez bonnes. Donc, entre autres, là, je pense on a eu les ventes au détail au Canada. OK, le mois de septembre, ça a diminué, mais le mois d'octobre, il y a une estimation préliminaire qui montre que ça a rebondi. On a aussi une bonne création d'emplois en octobre. Aux États-Unis, hormis le marché de l'habitation, où l'on voit des signes de ralentissement, les autres secteurs s'attendent à aller généralement bien. Et aussi, on a des signes comme quoi les banques centrales pourraient bientôt modérer les hausses de taux d'intérêt, sinon même prendre une pause. Donc, tout ça mis ensemble, là, ça aide à alimenter l'optimisme des marchés, comme quoi peut-être le pire est derrière nous. Et donc, là, on voit le rebond actuellement. Mais est-ce que ça va durer? Là?
C'est ça. Les marchés boursiers, habituellement, ont un peu d'avance sur la réalité. Parfois, ils ont raison. C'est comme ça qu'on fait des gains. Parfois, ils ont tort. À ce moment-là, ça entraîne d'autres problèmes. Selon toi, est-ce que les marchés ont raison d'avoir ce regain d'optimisme?
Bon, en fait, ils ont raison de penser que les données récentes sont bonnes. C'est vrai. Prenons-le. C'est des bonnes nouvelles qu'on a eues. Cependant, je pense que là où ils ont tort, c'est de croire qu'on n'en aura pas des mauvaises prochainement. Donc, il y a encore une zone de turbulence à traverser. On n'a pas encore vécu véritablement le ralentissement de l'économie qui est lié aux hausses de taux d'intérêt. Oui, on le voit dans le marché de l'habitation, mais pour l'économie en général, les effets sont retardés. Et ça, on devrait le voir, ça devrait être plus visible au début de l'année 2023. Donc, c'est notre scénario. Nous, on a toujours une courte récession de au moins deux trimestres de baisse du PIB réel, tant pour le Canada, le Québec, les États-Unis. Donc, ça devrait amener une période de turbulence sur les marchés. Ça serait étonnant que la bourse continue de croître dans un contexte où l'économie se détériore. Donc, on s'attend à encore de la volatilité, malheureusement, pour ceux qui pensaient que c'était le début d'une nouvelle tendance à la hausse. On a tendance à mettre quelques bémols. Donc, faites attention, et il y a encore matière à être prudent pour les prochains mois.
Bon, raison de plus à ce moment-là pour se préparer à la récession, comme nos invités nous le disaient. Merci, Hendrix, d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste est Philippine de Tinguy. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Notre technicien cette semaine est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur la plateforme C23 de Cogeco Media, ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Merci d'avoir été avec nous cette semaine encore une fois. Je m'appelle Laurent Thérien. On se reparle la semaine prochaine.